Donc, je vais vous présenter une trajectoire de recherche sur le territoire de l'Abri, donc dans le bassin de la Seine aussi. Donc là, c'est un projet partenarial donc sur une durée de 2005-2027, parce qu'on a des projets qui vont continuer jusqu'en 2027. Et c'est donc une histoire entre l'association ACUBRI, que je vais présenter tout de suite après, et l'INRAE, où avant on était CEMEGREF et IRSTEA. Donc, l'objectif de nos travaux, c'est de restaurer les fonctionnalités tampons du bassin versant, où on voit qu'on a une constante évolution du paysage agricole entre le début, comme l'a montré Josette, sur les différentes techniques et pratiques agricoles, jusqu'à, dans les années 2000, à une optimisation de la production agricole qui faisait suite à tous les travaux de remembrement et d'aménagement foncier, et notamment aussi aux travaux de drainage. Donc, l'objectif, c'est de réintégrer l'agriculture dans une dynamique paysagère résiliente en appliquant les concepts de l'ingénierie écologique ou infrastructure verte ou solutions fondées sur la nature, selon la période où on est intervenu dans ces questions-là. Donc, le territoire de l'Abri, par l'association ACUBRI, c'est une association de protection de la nappe de Brie et de Champigny. Donc, c'est une association d'usagers de cet aquifère qui vise à avoir une utilisation durable, aussi bien en quantité, mais aussi en qualité. Donc, il y a différents enjeux agricoles, mais industriels, et aussi des enjeux d'eau potable, puisqu'il y a une forte pression pour fournir de l'eau à peu près 1,5 million d'habitants. Et donc, dans ce territoire-là, il y a une forte emprise de l'agriculture céréalière conventionnelle, principalement conventionnelle, sur des sols à fort potentiel agronomique et qui sont hydromorphes et drainés. Et il y a peu d'éléments du paysage qui ont résisté donc, aux opérations foncières. Et avec un fonctionnement hydrologique qui est assez particulier, puisque le Champigny, à peu près les deux tiers de la recharge du Champigny, se font directement de la surface à la profondeur par ce qu'on appelle des zones de karstification. C'est donc des zones d'infiltration directe, d'infiltration préférentielle, notamment pour la présence de gouffres. Donc, le long d'un cours d'eau, vous pouvez avoir l'eau qui disparaît et qui laisse après des sortes de vallées sèches. Qui peuvent être seulement en eau quand il y a des grosses crues. Donc l'eau disparaît, va directement dans la nappe. Alors ça confère à cette nappe une forte vulnérabilité aux pollutions diffuses. Donc sur ce territoire-là, donc, nous on a travaillé sur un tout petit territoire qui est un site de démonstration, qui se voulait être comme qu'est-ce qu'on pouvait faire à petite échelle qui pouvait être déployé à plus grande échelle. Donc là c'est un bassin versant qui est à Rampillon, qui est à l'est de Paris, qui fait 355 hectares. De culture conventionnelle. Vous pouvez voir qu'il n'y a plus beaucoup d'éléments naturels du paysage. Et avec ACUBRI, il y a eu des travaux complémentaires sur la réduction de la pollution ponctuelle, sur la réduction de la pression polluante et les aménagements tampons qu'on a essayé de créer avec les acteurs locaux. Donc la première phase de notre projet de 2005 à 2027, c'était de la co-construction. Donc, a été un processus pas à pas. Donc, vous voyez, ça a commencé en 2005 où on a commencé à parler des pollutions diffuses, notamment les pesticides. Ensuite, on a commencé à discuter de solutions théoriques. Et puis après, on a essayé de chercher des fonds, on a essayé de faire des études préalables aux aménagements. Et après, on est arrivé à la construction et à l'évaluation de la performance. Donc, la construction de quoi ? Donc, de notre programme d'action et notamment de cet aspect de zone tampon. Donc, vous voyez ici l'itinéraire du RU qui se trouve ici. Et donc, vous avez un bois, le bois des gouffres. Donc, il n'y a pas d'exutoire. Et donc, à l'intérieur, enfin, sur ce territoire-là, vous voyez qu'il n'y a pas assez peu d'éléments tampons en amont du bois des gouffres. Et donc, en 2010, il y a eu la construction d'un aménagement tampon assez important, puisque ça fait quasiment 1 hectare. D'occupation au sol. Et vous voyez ici, en 2013, il y avait une végétalisation qui est assez importante. Donc, la philosophie de notre aménagement, c'est d'intercepter les eaux qui s'écoulent des parcelles agricoles jusqu'au fossé, jusqu'aux rues des gouffres. Donc, on intercepte ces eaux-là pour les mettre dans la zone tampon, où l'eau va passer un certain temps et ressortir afin d'être un peu épurée. Donc, dans ce projet-là, on a essayé d'évaluer, dans cette phase ici d'acquisition de données, d'évaluer la performance épuratoire de cet aménagement tampon. Donc, on a un système de métrologie à l'entrée et à la sortie qui permet de quantifier les flux avec des systèmes haute fréquence où on a des données toutes les demi-heures en termes de débit et en termes de qualité de l'eau sur les paramètres nitrate, turbidité et carbone organique total. Et puis, on a la même chose à la sortie. Et on a des préleveurs automatiques qui permettent aussi de faire le suivi des prélèvements composites pour les pesticides. Et donc, on a une autre station qui permet de vérifier la qualité de l'eau qui arrive dans les gouffres. Donc, en termes d'efficacité sur les nitrates et les pesticides, donc on a un suivi sur différents, sur une centaine de pesticides sur la période 2012-2020. Et donc, ici, vous avez les couleurs qui indiquent l'efficacité selon les molécules. On a certaines, c'est plus efficace que sur d'autres. Donc, ce que l'on voit, c'est qu'il y a un potentiel qui est réel, mais qui est variable en fonction du temps de séjour et la température et selon le polluant. Alors, le temps de séjour, on peut jouer dessus avec un bon dimensionnement. Si c'est trop petit, ça ne sera pas très efficace. Mais on a encore des questions sur les métabolites et le devenir dans les différents compartiments biologiques, notamment des pesticides. Et ça, on le verra à travers deux projets ANR qui ne sont pas encore finis, qui sont en cours, notamment l'ANR Pestiponde, qui est coordonnée par le LIGES à Strasbourg. Pour les nitrates, on a fait des bilans de masse des nitrates pour voir comment on pouvait expliquer la demi-tonne de nitrate qui était épurée par an par la zone tampon. Et donc, on a identifié que la dénitrification était bien le processus principal, et que cette dénitrification ne produisait assez peu de N2O, mais principalement du N2. Et donc là, par rapport à ça, on voit qu'il y a une grande variabilité aussi de l'efficacité en fonction de la température, et on essaye de voir comment on peut optimiser la dénitrification à travers un projet ANR, le nitrate, basé sur l'électrochimie. Alors après, on passe à la phase 3, qui est une phase, après l'acquisition de connaissances sur la qualité de l'eau, une ouverture à l'interdisciplinarité, notamment donc pour l'intégration des émissions de gaz à effet de serre, de la biodiversité, des démarches participatives autour des services écosystémiques. Et donc, on s'est posé la question, c'est comment allier une innovation technique et une innovation sociale. L'innovation technique, qu'est la zone tampon, donc le transfert d'un concept à une rationalité plus importante et une généralisation à ce territoire-là. Donc, ça prend en compte des questions scientifiques, économiques, mais aussi sociales, politiques et symboliques. Et ça, on l'a vu par différents acteurs et différentes disciplines, notamment en termes de sciences sociales et humaines. Donc, en termes de bilan carbone, juste rapidement, on a étudié les différents compartiments et ce qui rentrait et ce qui sortait pour essayer de voir si une zone humide de ce type-là était plutôt puits ou source de carbone. Donc, en résumé, c'est plutôt une source de carbone puisque ça émet quand même beaucoup de CO2. Mais quand on regarde les simulations à long terme des zones humides, quand on a une zone humide qui est jeune, qui a une dizaine d'années, c'est assez classique d'avoir un bilan qui soit par émission de carbone. Et ça devient négatif à partir du moment où la zone humide a à peu près entre 100 et 150 ans. Donc il vaut mieux conserver les zones humides existantes, c'est elles qui ont plus de pouvoir pour réguler le climat. En termes de biodiversité, on a fait des suivis sur différents taxons et notamment, on a inventorié l'avifaune, les amphibiens, les invertébrés, les macro-invertébrés et puis les mammifères. Et ça nous a permis de faire un indice de présence locale et de remettre dans son contexte cette présence de biodiversité par rapport à ce qui est observé dans les communes limitrophes et de voir, vous avez ici en vert ce qui a été observé sur la zone tampon à comparer avec la commune de Rampillon mais aussi les communes limitrophes, que pour certains taxons, on arrive à dépasser ce qui avait été observé dans les sources participatives, notamment du CETIA. Et donc finalement, une zone tampon, ça avait une contribution sur la qualité de l'eau mais aussi sur la biodiversité. Alors on se pose encore des questions sur savoir si c'est des zones refuges ou des habitats propices. Donc, il y a encore des travaux à développer sur ces aspects. Et fort de ces éléments d'observation, on a fait un parcours pédagogique autour de la zone tampon, donc pour rendre visible ce qui est invisible et notamment partager avec les acteurs locaux cette notion de service écosystémique et de nature qui n'est pas maîtrisée, hein, qui peut être naturelle dans ce milieu de Brie. Alors, dans le projet Brio, le projet PSDR, la partie démarche participative, on l'a faite en plusieurs séquences. notamment avec les acteurs. Donc, on a associé différents outils pour débattre de la pollution diffuse, notamment des outils de l'INRA qu'on a adaptés sur la question des zones tampons. Donc, il y a l'outil météo qui permet de partager les perceptions, ce que vous avez en étape 1. Quelles sont les valeurs? Quelles valeurs on a par rapport à ce territoire-là, par rapport à l'eau, par rapport à la biodiversité, par rapport à la nature sauvage? Et puis après, on a vu que les acteurs réclamaient d'avoir un peu plus de connaissances, de partager. Et donc, c'est ça qui a apporté l'étape 2 de partage des connaissances et la construction du parcours pédagogique et des phases des ateliers de terrain pour pouvoir mieux expliquer comment se passent les choses. Et après, en phase 3, on a commencé à discuter de scénarios de territoire, donc qui rentrent un peu dans la stratégie de design territorial. Et donc, quel territoire on voulait, et de montrer qu'ils pouvaient être acteurs de ce territoire-là et qu'ils pouvaient trouver leur propre trajectoire. Donc, on a discuté de scénarios qui étaient, comme l'a montré un peu Josette avant, c'est soit un scénario qui est purement agricole, donc qui fait un focus sur la production de grains et l'optimisation du grain, et un focus, donc un scénario qui était plus sur la protection de l'environnement, la protection de la qualité de l'eau. Et un des résultats de ce travail-là a montré que les acteurs, finalement, ils pouvaient trouver une convergence dans les deux, et ils pouvaient tout aussi bien produire en respectant l'environnement. Et donc, voilà, on va voir si, dans la suite, ça va amener à des actions concrètes. Et puis, on a aussi appliqué et développé un jeu de rôle qui s'appelle Résolution diffuse, et qui est là pour essayer ce que les acteurs puissent construire collectivement des actions et de voir quelles stratégies ils pouvaient mettre en œuvre pour arriver à leur fin, et notamment lever des freins financiers, fonciers. Et donc, c'est cette stratégie-là qui a essayé d'être mise en œuvre par ce jeu de rôle, qui a reçu des points très positifs de la part des élus, qui ont vu qu'ils ne sont pas toujours habitués à travailler avec des agriculteurs ou avec différents acteurs, et qui leur a fait une séance en fait, d'entraînement, et de se dire, bah oui, il y a des choses qu'on peut faire ou des choses qu'on ne peut pas faire. Quand on connaît mieux ce que fait l'agriculteur, on arrive à mieux discuter avec lui. Donc, c'est ce qu'a apporté en fait, ce jeu de rôle-là. Et puis, on a fait une restitution collective avec pour ambition de prolonger ce travail de recherche interdisciplinaire. Le projet se termine en 2020. Quid après, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, je vous ai mis en termes d'illustration un sketch note qui présente toute la démarche illustrée. Mais si vous voulez regarder plus d'informations, vous pouvez aller sur le site internet qui est indiqué ici. Et donc la phase 4, qui est le design territorial. Donc là, c'est le déploiement de ce qu'on a fait sur un petit territoire de 400 hectares avec 10 agriculteurs. Il nous a fallu 5 ans pour faire construire quelque chose. Maintenant, c'est 2027. C'est comment aller plus loin avec un territoire de 140 km² avec 150 agriculteurs. Et donc là, c'est un projet qui est piloté par l'OFB, qui est le projet Life Artisan, pour promouvoir les solutions fondées sur la nature. Et donc, le projet Ancœur 2030, ici, fait partie des 10 sites nationaux démonstrateurs pour la mise en pratique des solutions fondées sur la nature. Ça s'associe derrière avec toute une des opportunités de communication sous différents formats, donc académiques avec des publications, mais aussi presse et médias. Pour nous, c'est important d'avoir un site de démonstration, puisque par rapport à différents acteurs et différents cadres, ça permet de rendre concret un concept. Quand on travaille avec des agriculteurs, avec des acteurs, de visualiser et de se rendre compte de ce que c'est, ça permet d'ouvrir le débat sur les pollutions diffuses, et ça permet de répondre à pas mal de questions et d'interrogations et de craintes. Quand on a commencé Rampillon, ça n'existait pas encore. Et donc, c'est pour ça que ça a pris du temps. Maintenant, comme ça existe, ça fait une base de discussion et de présentation. Et donc, ça permet aussi de renforcer la discipline de l'ingénierie écologique et des solutions fondées sur la nature, aussi bien au niveau scientifique, mais aussi au niveau du grand public. Et donc, on a eu le prix du génie écologique en 2014. On a eu aussi des tournages qui ont été faits sur ce site-là. Et en termes de visiteurs, on a eu donc des étudiants, c'est un support aussi pour les étudiants de travail dessus, et puis aussi des acteurs du monde des pesticides, des acteurs publics et aussi étrangers qui sont intéressés par cette démarche globale, qui est longue. 2005-2020, c'est long, mais voilà, c'est indispensable aussi pour essayer d'acquérir la connaissance et de développer des guides méthodologiques. Donc voilà, je pense que j'ai terminé avec mon temps de parole. Je voudrais remercier les financeurs, hein, un projet qui dure depuis 2005 jusqu'à 2027. C'est assez lourd à gérer, mais donc il y a l'association ACUBRI, l'agence de l'eau, avec après ça le relais par l'OFB, la région Île-de-France et le PSDR pour une partie du projet Brio, et le Pirensen aussi, qui ont participé au financement durant ces années. L'ANR, puisqu'on a deux projets ANR qui s'appuient sur ce site-là. Et donc, on espère continuer et fructifier tous ces résultats. Et je voudrais remercier donc, le collectif de chercheurs et d'acteurs, aussi bien de locaux sur le territoire de l'Abri, avec la ville de Langis, le syndicat de Rivière, la DDT et la Chambre d'agriculture, mais aussi les collègues chercheurs qui ont participé à tout ce travail-là, qui a débuté sous l'ère du Cemagref, de l'IRSTEA, et puis maintenant de l'INRA. Voilà, je vous remercie de votre attention.